moi qui le tire.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, dans le petit train de la culture gaumaise, avec des arrêts principaux en gare de Florenville, de Jamoing et de Gérouville. Nous sommes aujourd'hui avec Coralie, Lou et Isabelle. Alors Coralie, qui fait partie de la bibliothèque de Jamoing, ainsi que celle de Gérouville d'ailleurs, est spécialisée en jeux, la bibliothèque de Jamoing, mais Coralie aussi. Alors bonjour Coralie.
Bonjour tout le monde.
Eh bien Coralie, tu vas, je suppose, nous présenter un jeu. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un premier jeu qui s'appelle Panique Cafard. Panique Cafard, c'est l'histoire d'un petit cafard dans une cuisine qui a décidé de vivre sa vie bien tranquillement, pendant que les joueurs qui représentent des cuisiniers doivent le piéger pour le sortir de la cuisine. Alors le jeu se joue à partir de 5 ans, donc c'est pour les petits, hein, quand même, c'est assez facile d'utilisation, et on peut jouer entre 2 et 4 joueurs. Alors le plateau de jeu, la boîte du jeu, sert de plateau, et il y a plusieurs petits éléments en plus. Donc on a un dé spécial en bois, avec des points d'interrogation et des couverts pour savoir ce qu'on va pouvoir tourner pour piéger le cafard. Il y a 18 jetons en carton qui ont un petit dessin de cafard dessus. Et évidemment, on a le dit petit cafard qui fonctionne sur pile. À partir du moment où on met le petit cafard en route, ce dernier va se mettre à vibrer. Et dès qu'on le dépose dans la boîte, en fait, à force de vibrer, il va avancer et se frayer un petit chemin à travers la cuisine. Alors, chaque joueur à son tour lance le dé et tourne le couvert qui correspond à la face du dé ou le couvert de son choix dans le cas d'un point d'interrogation. Et une fois que le cafard a été piégé, le joueur qui a réussi à le piéger gagne un jeton cafard. La partie s'arrête quand un des joueurs gagne 5 jetons cafard. Voilà, super simple d'utilisation, très très facile. Alors les matériaux, c'est principalement du carton et du bois. Il n'y a que le cafard qui est en plastique, donc c'est quand même quelque chose de relativement résistant et d'assez écologique quand même, hein, parce que c'est du matériel qui peut se recycler facilement. Et pour l'avoir testé avec mes petits cousins, je sais que ça fonctionne du tonnerre auprès des enfants. Parce que voilà, l'idée de piéger un petit cafard, l'idée de toucher un petit cafard, on sait bien qu'avec nos tout-petits, ça fonctionne toujours. Donc voilà, Panique Cafard, à partir de 5 ans, entre 2 et 4 joueurs, et une partie va durer environ une heure, le temps qu'un joueur ait les fameux 5 jetons cafard.
Ben voilà un petit jeu qui m'a l'air bien intéressant. On peut tout de même se demander ce que pense la SPC de tout cela, n'est-ce pas? La SPC, ben, la Société de Protection des Cafards. Mais je vois Lou là-bas sur l'écran Zoom qui tient absolument à dire quelque chose. Alors écoutons-la plutôt.
Alors oui, effectivement Jean-Marie, je vais parler d'un roman policier. Mais pas du tout un roman policier contemporain, parce que les derniers que j'ai essayés m'ont réellement, vraiment terrorisé. Il faut dire que quand j'étais petite, j'avais des cauchemars en lisant Le Club des Cinq. Donc les romans policiers, aussi bons soient-ils, quand ils parlent d'atrocités et qu'il y a une violence inouïe, j'arrive plus à les lire. Vraiment, c'est un truc que je ne suis jamais parvenue à faire, donc je me suis dit, je voudrais quand même bien un roman policier. Et je me suis dit, ah, mais je vais lire Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, que j'avais lu quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Et je me souviens d'avoir été fascinée par ce roman, et je me suis dit, je vais le relire. Je ne me souvenais absolument plus de ce qui s'était passé, tout en sachant que, normalement, j'aurais dû m'en souvenir. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que j'étais extrêmement surprise de voir que ça ne s'appelait plus Les 10 petits nègres. Ça avait été rebaptisé être politiquement correct. Ça a été donc débaptisé Ils étaient 10. Alors, c'est un roman, j'ai fait quelques recherches, qui se situe toujours entre la 10e et la 19e place dans le classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps. Et ça, alors qu'il a été publié en 1939. Je trouve quand même que c'est un exploit. Alors, la chère Agatha Christie, qui avait une personnalité incroyable, c'est une femme extraordinaire, Agatha Christie, hein, qui a épousé un archéologue qui avait 14 ans de moins qu'elle, et quand un journaliste un jour lui a demandé « Mais ça ne vous dérange pas quand même d'avoir 14 ans de plus que son mari, que votre mari ?» Elle a répondu « Non, non, il est habitué aux antiquités. » Oh, qu'elle était drôle! Alors voilà, je reviens à... Oh, j'ai oublié le nouveau titre, attendez, c'est « Ils étaient 10 ». Bon, 10 personnes qui n'ont apparemment rien en commun sont invitées sur l'île du Nègre par un mystérieux monsieur Unknown, qui peut se lire « unknown », c'est-à-dire « inconnu ». Alors, personne ne sait qui il est et les spéculations vont bon train. Alors, est-ce que c'est un régissime américain, une star hollywoodienne? Personne ne sait. En tout cas, aucun des invités n'hésite à prendre un bateau pour aller sur cette île, et qui est pourtant totalement inhospitalière et coupée du monde parce qu'ils sont reçus dans le somptueux manoir de Monsieur Owen. Il se retrouve donc 10 sur l'île, mais Monsieur Owen n'est pas là. Et il n'y a que cette voix gravée sur un disque qui accuse tous les invités d'avoir commis un meurtre. C'est un huis clos et époustouflant qui commence, ponctué par la comptine des 10 petits nègres qui figurent dans la chambre de chacun des invités. Alors je vais vous lire la comptine parce que ça vous donnera peut-être une idée de ce qui va arriver, mais c'est compliqué. 10 petits nègres s'en furent dîner. L'un d'eux but à s'en étrangler. N'en resta que 9. 9 petits nègres se couchèrent à minuit. L'un d'eux à jamais s'endormit. N'en resta plus que 8. 8 petits nègres dont le Devon était allé. L'un d'eux voulut y demeurer. N'en resta plus que 7. 7 petits nègres fendirent du petit bois en 2. L'un se coupa, ma foi. N'en resta plus que 6. 6 petits nègres rêvassaient au rucher. Une abeille l'un d'eux a piqué. N'en resta plus que 5. 5 petits nègres étaient avocats à la cour. L'un d'eux finit en haute cour. N'en resta plus que 4. 4 petits nègres se baignèrent au matin. Poisson d'avril gobala. N'en resta plus que 3. 3 petits nègres s'en allèrent aux eaux. Un ours de lin fit la peau. N'en resta plus que 2. 2 petits nègres se dorèrent au soleil, l'un d'eux devint vermeil, n'en resta plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout esselé, se pendre il s'en est allé, n'en resta plus du tout. Alors, c'est une comptine terrifiante, et en fait, il faut que vous sachiez que dans cette île, sur cette île inhospitalière, donc dans ce manoir magnifique de Monsieur Owen, sur la table du salon se trouvent 10 figurines. Et lorsque la mort frappe l'un des invités, elle le fait en suivant la comptine. Et chaque fois, une figurine disparaît. Alors la panique s'installe lorsque la première victime s'étrangle et que la deuxième meurt dans son sommeil. Il ne reste plus que 8 statuettes. Le suspense est insoutenable et le mystère total. La fin est incroyable et je vous mets au défi, vraiment, de trouver le coupable avant la toute fin. Parce que moi, je vous avoue que je l'avais lu. Bon, certes, il y a longtemps. Eh ben, en le relisant, jamais je ne me suis douté de qui était le coupable. Sauf peut-être si vous êtes tout à fait spécialiste d'Agatha Christie. Alors, bien entendu, je ne vous dirai rien de plus. Je vous invite simplement à relire ce chef-d'œuvre de la littérature policière. Alors, comme choix musical, je n'ai rien trouvé de mieux que les murder ballads, c'est-à-dire les ballades meurtrières. Ce sont des ballades extraites du 9e album de Nick Cave and the Bad Seeds. Cet album, en fait, se compose de ballades centrées sur le thème du meurtre. Je trouve que c'est tout à fait à propos. Et il y en a, je ne sais pas combien, peut-être y en a-t-il 10, j'aimerais bien qu'il y en ait 10, je ne sais pas. En tout cas, c'est Nick Cave avec Killing Menock, et c'est Where the Wild Roses Grow.
They call me the wild rose. the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day.
Pour changer un peu, aujourd'hui, pas de rubrique anti-littéraire. Mais par contre, un très beau livre. Graines d'espoir de Jane Goodall. Jane Goodall est surtout connue pour ses études sur les chimpanzés. Voici d'ailleurs ce que pense un chimpanzé de Jane Goodall. Ce qui pourrait se traduire, enfin plus ou moins, hein, par « Eh bien oui, Jane Goodall a été assez intelligente pour se rendre compte que nous l'étions aussi ». En effet, Jane Goodall est la première à avoir démontré que les chimpanzés utilisent des outils. Maintenant, on s'est rendu compte que beaucoup d'autres animaux arrivent à faire ça, mais à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire. Alors, c'est un peu difficile de se rendre compte à notre époque à quel point ces travaux étaient précurseurs, car beaucoup des découvertes qu'elle a faites ont été maintenant intégrées à la connaissance du public en général. Depuis, on a appris que les corbeaux peuvent utiliser des outils. Enfin, voilà, beaucoup d'animaux sont capables de faire ça. Mais tout cela, bien que très intéressant, n'a absolument rien à voir avec le livre dont je vous parle. Jane Goodall, dans son livre « Graines d'espoir », « Graines », il y a un indice, elle nous parle des plantes. Et j'ai appris dans ce livre, ce que je ne savais pas du tout, c'est que Jane Goodall a avoué une passion aux plantes depuis son plus jeune âge. Graine d'espoir, on peut dire que ce livre porte bien son nom, car la lecture de ce livre fait du bien. Le sous-titre est un indice, Sagesse et merveille du monde des plantes. Certains passages se lisent comme un roman d'aventure. Par exemple, celle des chasseurs de plantes, des chasseurs donc, qui vont découvrir des nouveaux exemplaires pour les reproduire, éventuellement les protéger. Il y a certains de ces, par exemple Douglas, hein, vous savez qu'il y a un pin ou un sapin de Douglas, et bien c'était Monsieur Douglas qui était un grand chasseur de plantes. Alors le chasseur de plantes s'embusque, attend que la plante bouge, et dès qu'elle bouge, il lui saute dessus. Alors d'autres passages, par contre, sont très émouvants. Cette dame, qui est maintenant quand même fort âgée, est toujours très active, elle donne 300 conférences par an, je pense. Donc elle a évidemment vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et elle raconte ses souvenirs avec une délicieuse émotion retenue, si typique des Britanniques. Alors, un petit extrait, une petite idée de ce que Jane Goodall nous raconte. Hein. L'histoire se passe au Tamil Nadu. C'est à l'extrême sud de l'Inde. Et là, il y a une colline dédiée à Shiva. Mais la déforestation est passée par là. Et donc, cette colline est complètement nue, ne ressemble plus à rien. Hein. Donc, et une religieuse, hein, une adepte de Shiva, trouve que cette colline dénudée ne va pas du tout. Et que la colline devrait avoir une jolie robe faite d'arbres. Alors, le projet, pour finir, va tomber dans les oreilles d'une personne qui va rassembler tous les pèlerins, tous les fans de Shiva, et ils vont tous ensemble reboiser la colline. Et bon, elle vous raconte ça beaucoup, beaucoup mieux que moi, hein, je vous assure, mais c'est extrêmement intéressant de voir quand de bonnes intentions et quand les humains mettent leur énergie à restaurer la nature, ils sont tout à fait capables de faire de très, très, très belles choses. Monsieur Georges Brassens, il aimait bien les plantes, les arbres et surtout un arbre en particulier.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ourse. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tombé des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi, j'y paie des prunes, y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Mais revoici Coralie qui nous va parler cette fois de deux jeux, non pas un, mais deux. On en a de la chance, hein?
Alors pour mon deuxième jeu, j'ai décidé qu'il était temps qu'on reprenne les voyages, qu'on puisse sortir de chez nous, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse. Et donc j'ai décidé de vous emmener au Portugal avec le jeu Azul. Alors Azul, c'est un jeu de récolte en fait, dans lequel il va falloir récolter des petites tuiles en résine qui représentent des carreaux de ciment. Le but du jeu, c'est de pouvoir construire le plus joli mur possible en carreaux de ciment pour décorer le palais de Manuel Ier, roi du Portugal. Alors on peut jouer à ce jeu à partir de 8 ans parce que les règles ne sont pas très très simples. Et on conseille en général de faire une partie qui va durer de 30 à 45 minutes et on peut jouer de 2 à 4 joueurs, c'est un peu le nombre classique. Alors voilà, pour récolter ces petites tuiles, il y a plusieurs moyens. Donc soit on va récupérer toutes les tuiles d'une même couleur qui sont dans les fabriques de tuiles. Et ce qui reste dans les fabriques va se retrouver en centre de table. Soit, s'il y a déjà des tuiles en centre de table, on récupère toutes les tuiles de la même couleur du centre de table pour les récupérer dans sa pioche. Alors évidemment, vous allez vous retrouver avec beaucoup de tuiles en trop. Et c'est là que le jeu se complique, parce que chaque tuile qui n'est pas utilisée dans une ligne doit être placée dans votre défausse personnelle et vous fera perdre des points. La partie s'arrête quand le mur a été entièrement construit par un des joueurs. Voilà, donc il est assez compliqué à mettre en place, mais il est particulièrement joli. Ça, je tiens vraiment à le préciser, les dessins qu'il y a sur les tuiles sont absolument magnifique. Alors on a évidemment la petite tuile entre guillemets dite classique, blanche avec une étoile bleue à 8 branches. On a aussi le carreau de ciment très classique, blanc avec une arabesque bleue. Et on en a aussi de couleurs un petit peu plus vives, comme des carreaux de ciment rouge et ocre. Voilà, donc ça c'est pour le jeu Azul. Alors si jamais vous êtes intéressé à l'idée de jouer à ce jeu, vous pouvez vous rendre dans les bibliothèques de Jamoigne ou de Florentville. À Jamoigne, on va pouvoir vous le prêter directement et à Florentville, on fera du prêt inter, ça c'est pas un problème, Isabelle, tu confirmeras. Et donc, je rappelle le numéro de la bibliothèque de Jamoigne, c'est le 061 28 95 28. Ou vous pouvez également demander à la bibliothèque de Florentville qui vous le fasse revenir en pré-inter au 061 320 340. Mon troisième jeu se fera plus mystérieux. Car en effet, je vous emmène cette fois-ci dans le monde terrible de Mysterium. Un jeu à partir de 10 ans. De 2 jusqu'à 7 joueurs pour une partie très précise de 42 minutes. Vous jouerez un fantôme ou des médiums. Pauvre âme tourmentée, le fantôme doit vous faire deviner comment il est mort, qui l'a tué et où il a été tué. Mais la fatigue l'étreint. Il erre depuis des années et aussi, pour vous faire deviner tout cela à vous, médium, il ne pourra utiliser que de brèves images, des flashs dans votre conscience. Oh vraiment, vous n'avez pas idée à quel point vous allez vous amuser. Alors comme je l'ai dit, c'est un jeu qui va se jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 7 joueurs. L'un des joueurs doit être le fantôme. C'est lui qui reçoit les cartes du meurtrier, du lieu du crime, de l'arme du crime, et qui doit, en utilisant ses propres cartes, faire deviner au médium, les autres joueurs, l'identité du meurtrier, le lieu du crime et l'arme du crime. Alors évidemment, c'est pas très facile comme jeu, parce que comme le fantôme a erré pendant plusieurs siècles, il ne peut pas parler. Donc tout va passer par la communication des cartes et le fantôme va devoir choisir correctement ses cartes pour vous faire deviner les bons indices et vous permettre de trouver la solution à l'énigme en moins de 7 heures, les fameuses 42 minutes. En effet, chacune des 7 phases pour deviner ce qu'il s'est passé se joue en 6 minutes très précises. Au-delà des 6 minutes, tout doit être indiqué. Donc chaque personnage doit avoir mis son pion d'intuition sur la case qu'il pense être la bonne pour pouvoir passer à l'étape suivante. Si au terme des 7 heures, tous les indices n'ont pas été trouvés et ne sont pas corrects, il va falloir recommencer la partie. Donc c'est un jeu de coopération, et ça c'est plutôt intéressant parce qu'il n'y en a pas énormément. Et les médiums entre eux vont pouvoir discuter pour savoir un petit peu comment ils s'organisent, quel indice leur fait penser à quoi, etc. Mais le fantôme doit toujours, toujours, toujours rester silencieux. Et c'est là la difficulté du jeu. C'est pour ça qu'on conseille un âge de 10 ans, parce qu'effectivement, à partir de 10 ans, on peut éventuellement commencer à repérer les similitudes entre certaines images qui n'ont, entre guillemets, presque rien à voir ensemble. Voilà, donc ce jeu-là, Mysterium, est particulièrement agréable à jouer. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes jeux favoris. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que la petite musique que vous avez entendue pendant la présentation est disponible sur le site de Libellude, qui est l'éditeur de ce jeu. Donc ça vous permet de jouer une partie tout en ayant une musique d'ambiance. Voilà, ça peut toujours être sympathique. Donc il s'appelle Mysterium. Il est à partir de 10 ans. On peut jouer de 2 jusqu'à 7 joueurs pour une partie de 42 minutes précises. Et si jamais ce jeu vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec vos bibliothécaires à Jamoigne.
Bien, il a été question de voyage, donc un beau pays pour voyager, c'est le Portugal. Hein, on peut aller écouter des fados, on peut aussi manger de délicieuses sardines grillées et beaucoup de versions différentes de la morue. Mais bon, ce n'est pas de ça que Lynn Renaud nous parle. Écoutons-la plutôt.
Portugal, 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 je te dois tant de rêves si j'ai laissé mon cœur au Portugal. Si j'ai changé le souvenir banal des autres cieux, des autres séjours, pour ne garder que cet amour. Si dans ma vie s'est déroulé le fil qui me rattache au ciel de l'Estoril, c'est que le vent, un soir de carnaval, a emporté mon cœur au Portugal. Portugal, au printemps, dans le champ de tes douces guitares, ton soleil m'a donné la joie d'aimer. Si j'ai laissé mon cœur au Portugal, si j'ai trouvé un bonheur sans égal dans ce pays où le cours des jours s'enroule autour de mes amours. Si dans ma vie rien n'a brisé le fil qui me rattache au ciel de l'Estoril, c'est que l'amour, un soir de carnaval, a fait danser mon cœur au Portugal.
Nous avons décidément beaucoup de chance aujourd'hui, car Coralie, en plus des jeux habituels, a maintenant une rubrique sur les livres jeunesse. De quoi s'agit-il ?
Le livre jeunesse que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui s'appelle « Le chevalier de ventre à terre » par Gilles Bachelet. C'est un livre qui est édité chez Seuil Jeunesse et qui, moi, me plaît énormément parce que je le trouve très très drôle en fait. Donc on suit l'histoire de ce fameux chevalier de ventre à terre qui est un escargot. Et cet escargot doit partir en guerre parce qu'une autre colonie d'escargots a osé attaquer ses fraisiers. Alors on le voit se préparer pour aller à la guerre, on le voit prendre son petit déjeuner, on le voit prendre sa douche, on le voit enfiler son armure, mettre son haut, mettre son écharpe, se préparer. Et puis, il n'a pas envie de s'en aller tout de suite parce que quand même, il faut qu'il fasse un bisou à son épouse. Ah, et puis, il ne peut pas s'en aller trop vite non plus parce qu'il faut quand même qu'il dise au revoir à ses enfants aussi. Ah, et puis, il ne peut pas s'en aller trop vite parce qu'il faut absolument qu'il envoie quelques mails avant de partir. Et bref, vous l'aurez compris, sur le chemin pour aller à la guerre, le chevalier de ventre à terre va s'arrêter en chemin de manière incessante. Il est très très drôle, les dessins sont super jolis, extrêmement détaillés, ça fourmille de détails vraiment. Et comme c'est un assez grand format, puisqu'il mesure 33 cm, on peut facilement avoir son enfant dans les bras et passer le livre autour pour que l'enfant puisse vraiment admirer tous les détails. Voilà, donc moi c'est vraiment un bouquin que je trouve top. Parce qu'il est super drôle, parce que voilà, les détails sont vraiment très sympathiques et parce qu'il y a énormément de références à d'autres types de littérature jeunesse que les enfants vont probablement reconnaître. Et c'est quand même ça qui est super intéressant quand on lit des histoires aux enfants, c'est de pouvoir après communiquer avec eux, de pouvoir voir un petit peu ce qu'ils en pensent, s'ils l'avaient déjà lu, s'ils l'ont aimé, s'ils l'ont pas aimé, c'est comme ça que l'enfant se construit. Voilà, et en plus, c'est une super histoire de chevalier, donc que demande le peuple ?
Après un livre jeunesse, voici un livre plus adulte, hein, pas réservé aux adultes, mais qui a surtout la caractéristique d'avoir été écrit par Marie Fizen. Donc une autrice, une auteure au choix, de la région. Et c'est un feuilleton que Isabelle de la bibliothèque de Florentville nous propose. Alors nous t'écoutons, Isabelle.
Nous étions restés avec Tante Juliette. Et voici que Tante Juliette repartirait par le tram ou l'autorail, c'était certain. Un arrêt facultatif se trouvait à 50 mètres de notre maison. Mais il fallait employer les grands moyens, en deux temps, c'est-à-dire envoyer d'urgence l'un de nous en faction et pousser Tante Juliette au dehors. « Vite, vite, marraine, tu vas le rater !» Ma sœur aînée s'emparait alors de la dite valise à toute fin de pouvoir assister sa tante, mais celle-ci aussitôt « Non, non, petit, c'est trop lourd !»« Courez !» clamait maman, « il arrive !» Une fois de plus, j'en étais sûre, Tante Juliette viendrait hanter ma nuit. Il arrivait pourtant qu'elle apporta des nouvelles qui en valaient la peine. Cette fois, son frère n'échapperait pas à son discours. L'affaire était d'importance. Il l'avait tout de suite remarqué. « J'ai un client qui m'attend, c'est urgent !» lui lançait-il en prenant la porte. Tante Juliette serrait les lèvres en jetant un coup d'œil à notre mère. Rien ne la ferait parler. Elle attendrait. Il reviendrait pour la tasse de café à un moment ou un autre, c'était certain. « Tu vois, poursuivit-elle à l'intention de sa belle-sœur, le Seigneur a son heure. Il rattrape toujours le mauvais quand il le veut. » La gravité transpirait à fleur de peau et laissait tout prévoir. Elle pensait que notre mère allait s'accrocher, insister. Non. Plus l'atmosphère s'échauffait, plus cette dernière montrait une parfaite indifférence. Entre les deux femmes, les extrêmes se touchaient sans jamais les démonter, tant elles se connaissaient. Alors la Juliette s'installait au mieux sur une chaise, croisait les pieds qu'elle remuerait un peu par impatience, alternant des mains qu'elle reposait au creux de sa jupe, entre les genoux. De trois doigts, elle tâterait la fermeture de son chemisier, vérifierait si le foulard tenait encore à ses épaules, ou se moucherait avec délicatesse. Enfin, il rentrait. Le voilà, je le tiens. Vivement, elle approchait son siège de celui de son frère, l'empoignait au bras. 5 minutes seulement. Tu ne regretteras pas ces 5 minutes, j'en jurerai, commençait-elle. Cette fois, il s'agissait du saccage de la grotte de Notre-Dame de Lourdes, de son jardin. Il y avait de cela 2 à 3 semaines. Papa corrigeait, disant 2 à 3 mois. Elle l'en avait informé. C'était le travail du fameux... Un sobriquet résonnait ainsi que ces noms résonnent sans fin, parce que le langage populaire connaît la musique à cet effet et ne crée pas sans musique. Des mots qui roulent, claquent sur la langue et glissent sur le bout des lèvres avec un goût de revenez-y. Avec ça qu'il défie l'éternité, tels des œufs frais pour la postérité. Le sassa ou le cagna, ou encore le descrupi, le socu, le ciré laminette. Ce ne pouvait être qu'un de ces malheureux marginaux, locteux et souvent ivrogne à tout vent, aussi prompt à subtiliser n'importe quoi, serait-ce même le diable. D'ailleurs, le diable était maître de ces matins. Un de ces mordus de la misère qu'il était impossible de l'en tirer, parce qu'il ne savait qu'y retourner, comme il était sorti du ventre de sa mère. Autant dire que la société en décidait pour eux. Mais la société, par le biais de quelques personnes, leur faisait beaucoup de cadeaux à cette sorte de demeurés encanaillés. En tout cas, le vilain avait, lui, commis un sacrilège. « Si c'est lui, dit papa, comment t'en douter ? Ce qu'il a fait, il a ébréché la statuette de la Vierge du côté gauche. Le bras gauche, disparu, enfin cassé. Mais oui, comment en douter maintenant que le sacripant vient d'être malmené par un cheval ? Pas moins. Voilà que lui aussi est estropié. Exactement, pense un peu, au bras gauche. La punition éclate et dénonce la vengeance du ciel. Agacé, notre père a fait « Oh, oh !» Mais tout de même, personne ne dit mot. Car qu'on le veuille ou non, la justice immanente, on n'osait pas ne pas y croire. Grand-mère est morte. C'est lors d'un soir lumineux que la nouvelle m'écrasa comme une tuile sur la tête. Tu iras passer quelques jours à Isel durant les vacances de Pâques. J'en fus tellement abasourdi que mon air en devint comique. Autour de moi, ils se moquaient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, je protestais. Je n'irai pas, je n'en veux pas, je... Je cherchais le sourire en coin sur le visage de ma mère. Non, le ton restait totalement déterminé. Si, répétait-elle, tu es assez grande, tu iras. Ida arrêta de rire et me secoua. Ben quoi, j'y ai déjà été moi, et je m'y suis bien plu. Alors qu'elle y retourne, elle ? Je me démenais telle une noyée dans un baquet. Peine perdue. Prise de colère, je lâchai en criant. Grand-mère n'est plus là, je n'ai rien à y faire. Parole empruntée à mon père, entendue il y avait peu de temps. Ma mère n'est plus là, je n'ai plus rien à y faire. Alors que maman lui rappelait qu'il pourrait tout de même... Stupeur.
Thank you.
Il nous reste encore un peu de temps pour écouter une musique. Eh bien, nous avons eu de la musique classique et maintenant nous allons avoir du rap. Ah, mais attention, pas n'importe quel rap, hein. Un rap de Monsieur Jacques-Yvan Duchesne, avec un S comme au bon vieux temps d'avant les accents circonflexes. Le rap s'intitule Yo.
Yo. Yo, yo. Avant circule, jamais ne renonce. Pas de renoncule, sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que tu n'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien.
Avant circule, jamais ne renonce. Pas de renoncule, sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien.
Le lion du safari, du petit monde sauvage, avait déjà bouffé du touriste et poursuivait son carnage. Terrorisant la contrée, faisant fuir les autocars, on finit par n'y rencontrer plus une seule autocar. Les gens adorent le danger, tant qu'il est à la télé. Les seuls risques qu'ils prennent sont ceux qui sont remboursés. Yo.
Yo.
J'ai dit yo yo.
J'ai dit yo yo.
Malgré ses 50 enfants, le bourgmestre du village se sentait aussi impuissant qu'un petit doigt dans l'engrenage. Il en perdait la voix des électeurs et devant le drame ne savait à quel saint se vouer. Pourtant, il était polygame, affolé, affolé. Il m'envoya son courrier, tout autre héros que moi, vu le budget, lui aurait ri au nez. Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Avant circule, jamais ne renonce, pas de renoncule, sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Avant circule, jamais ne renonce, pas de renoncule, sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Je vins qui le roi des animaux. Je veux ta peau, tel est mon but, ce sera ton Waterloo. Je te défie dans un tournoi du jeu du mot le plus grand. Je savais ce que je faisais, le lion parlait que le flamand. Yo.
Yo.
Hey Zog, yo yo.
Hey yo yo.
Oui bon, ça suffit. Le bourgmestre du village, pour ma récompensation, organisa le dépucelage qui parferait ma formation, m'offrant, avec leur consentement, les faveurs de ces 50 filles que j'honorais séparément, puis ensemble dans la même nuit. Oh, je sais, ça paraît pas crédible, avec leur cul, je n'en reviens pas. Mais comment aurais-je su que c'était impossible? C'était la première fois. Yo!
Yo!
Sacré yo-yo!
Yo-yo!
Avant circule, jamais ne renonce, pas de renoncule. Sinon te dénonce, y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Avant circule, jamais ne renonce, pas de renoncule. Sinon te dénonce, y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Il avait gagné le concours de débardage. Un fou étrange venu d'ailleurs, mille grappins sur le voisinage. Envoya par tous ses gendarmes, leva des impôts à l'appel, dont un plus lourd que tous les autres qu'on appela la dringuelle. Il s'agissait pour chaque hameau de livrer 100 bœufs par an et par n'importe lesquels le chameau des bleus en bleu belge, évidemment. Yo. Le gouverneur de la province, un artiste nommé Créon, avait beau dessiner des plans et passer dessus ses réveillons. Un génicide se commettait, les deux grands bœufs de chaque étable rapetissaient en chair à pâté pour l'appétit du connétable. Créon, la minuse, m'envoya son courrier. Tout autre héros que moi l'aurait envoyé se faire décalquer. Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Moi j'ai dit.
Avance, Hercule, jamais ne renonce. Pas de renoncule, sinon on te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que tu n'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Avance, Hercule, jamais ne renonce. Pas de renoncule, sinon on te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Je vins qui le roi de la loyaux, dressant contre lui sur leurs ergots des gallinaces et loyaux. 100 000 coqs de combat wallons qui avaient peur de devenir veuves sur base du vieux dicton qui dit que qui vole un bœuf vole un œuf. Et yo,
yo.
J'ai dit yo yo.
Yo yo.
Ouh Créon, me dit Créon, tu es le modèle par excellence du père de ce héros que je veux pour la descendance de ma fille dont je sais qu'un seul un surhumain triomphera. Une rousse dont la chute de rein m'a fait la plaie Niagara. Mais ça c'est une autre histoire, j'y reviendrai peut-être plus longuement. Il y avait un piège, comment le voir? Je répondis galamment.
Avant circule, jamais ne renonce, pas de renoncule.
sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pencher pour rien. Avance, circule, jamais ne renonce, pas de renoncule, sinon te dénonce. Y'a qu'une chose sûre, c'est que t'es sûr de rien. Mais si t'es droit dans tes chaussures, on te fera pas marcher pour rien. Yo, yo.
Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Sud, les meilleures choses ayant une fin, nous voilà arrivés à la fin de cette émission En Culture numéro 3. J'espère que cette émission vous aura plu. Elle était un peu particulière, vous aurez probablement remarqué qu'il y avait moins d'interactions qu'à l'accoutumée. C'est simplement lié à des problèmes techniques en rapport avec le confinement, Zoom, etc. Mais ce n'est pas bien grave, j'espère que vous aurez quand même pu profiter de cette émission. Alors je vais vous saluer de la part des bibliothèques de Florentville, de Girouville, ainsi que de Jamoigne. Et je vais aussi vous saluer, chers auditeurs, chères auditrices, en délégation, si l'on veut, de Lou, d'Isabelle et de Coralie qui ont aimablement et efficacement participé à cette émission. Que la quinzaine vous soit douce.
En culture.
J'avais le cœur sur les eaux et l'âme dans la bière. Des potes sans credo, des loups, des solitaires, de pauvres gens qui errent, paumés autant que moi. C'est pas que j'en étais fier, mais c'était mes potes à moi. C'était mes potes à moi. Mes rêves étaient meurtris d'amarres en partance, de défaites en défi, avec pour toute urgence de voir le bout de la terre, de voir le bout de moi. C'est pas que j'en étais fier, mais c'était mes rêves à moi, c'était mes rêves à moi. Mamie à moi mamie, ma vie à moi n'est pas ma vie. Si t'as envie de ma vie à moi, ma vie mamie a envie de toi. Comme le monde est pourri, santé partout le cadavre. J'étais de ceux qui se méfient quand on leur offre un havre, avec la peur de mal faire, de trahir, oui, mais quoi. C'est pas que j'en étais fier, mais c'était mes peurs à moi. C'était mes peurs à moi. Mamie à moi mamie, ma vie à moi n'est pas ma vie. Si t'as envie de ma vie à moi, ma vie mamie a envie de toi. Ce que tu m'offres, je crois, j'aurais craché par terre. Si ça venait pas de toi, et je serais pas sincère si je gardais ma misère, si je n'en voulais pas. Et j'en suis pas peu fier que tu m'offres ta vie à moi, que tu m'offres ta vie à moi. Mamie à moi, mamie, ma vie à moi n'est pas ma vie. Si t'as envie de ma vie à moi, ma vie, mamie, envie-toi.
Mamie à moi, mamie, ma vie à moi n'est pas ma vie. Si t'as envie de ma vie à moi, ma vie, mamie, envie-toi.
Des gauches, de leurs gros pieds dans le plat. On va rire des nunuches et des moches, de tout ce qui n'est pas droit. On va rire des bouffis, des chétifs, des échalas, des nains. On va rire des spidés, des pas vifs, des planches et des boudins. Des gros pifs boutonneux, des oreilles décollées, des bigleux. On va rire des cul-de-jatte, des scrofuleux, des sourds, des nivoiriens. On va rire des tubards, des lépreux, des bègues, des mongoliens. On va rire des goutteux, des goitreux, des manchots, des phtisiques, des estropiés, des muets, des éclopés, des épileptiques. On va rire des ch'touilleux, des débiles, des dingues et des stériles. Mais des altesses impuissants tout arrêt, on ne rira pas. On ne rit pas de n'importe quoi. On va rire des putes, des flics et des bidasses, des curés de camarets. On va rire des pipelettes et des gardes-chasse, des pompons, des pompiers. On va rire des chefs de gare, des facteurs, des politiciens. On va rire des paysans, des coiffeurs et des sacristains, des profs et des cafetières, des fossoyeurs et des fonctionnaires. On va rire des beurs, des belges, des blacks, des bicots, des youpins. On va rire des turcs, des japs et des polacs, des viettes, des tyroliens. On va rire des esquimaux, des zoulous, des suisses, des moldaves, des popov, des papous, des écosses et des chleux, des bataves. On va rire des portos, des tchétchènes, des tchèques, des brésiliennes. Mais des pilotes automobiles qui se plantent même quand la route va tout droit, là on ne rira pas parce qu'on ne rit pas de n'importe quoi. Par contre, on va rire des cocus, des cocos, des vaincus, des vipos, des pots de glu, des clodos. On va rire des ados, des scouts, des écolos, des maos, des trotsés, des cagots. On va rire des anards, des bisous, des bizarres, des bossus. On va rire des pédés, des perdus, des camés qui ont bu. Rire de tout et de rien, c'est en faisant du mal qu'on se fait du bien. Mais il y a quelqu'un dont on ne rira pas. C'est moi. C'est moi. Si tu vas dans le monde est un vieux trichard, qu'essaieras-tu confondre? La gueule d'un tourbillon avec un rond dans l'eau, le cri de guerre d'un rapace avec un chant d'oiseau. Et dis-toi qu'il tue bien des voyageurs, mais si t'as fait ton choix, mets une petite laine à ton cœur. Et va, mets une petite laine à ton cœur. Méfie-toi des pièges qui abondent, qui te feront croire à la fraîcheur sur un volcan qui gronde. Au mirage d'oasis qui cache le désert,
à la caresse des pluies qui camouflent l'éclair. La foudre, tu te moques, mais même si tu sais pas très bien pourquoi, mets une petite laine à ton cœur. Pour moi, on était bien nous deux, tu t'es lassé, tant pis. Je vais jouer le jeu, m'effacer de ta vie. Tu crois que c'est mieux, plus loin, j'ai déjà vu. Plus loin, on en revient, ou on n'en revient plus. Parle-moi plus du monde, le monde, je m'en fous. Le monde, il est immonde, le monde, il devient fou. De fourgons en fournaise, le monde, il est fourbu. De foutoir en foutaise, le monde, il est foutu. Petite laine à ton cœur, si tu veux courir la map monde, tout n'est pas meilleur ailleurs, y'en a tant qui succombent. Au chant des sirènes qui vous tirent par le fond, aux avalanches soudaines quand un écho répond. Mais trop tard, le monde est plein de naufrages, de chutes sans fin. Mets une petite laine à ton cœur, tiens bien. Mets une petite laine à ton cœur, je te garde au chaud dans le mien. Et si un jour tout ça t'écœure,